Bonsoir. Célébration le 21 septembre de la Journée internationale de la paix. Dans son message à cette occasion, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC appelle les groupes armés à stopper les combats et à mettre fin à toute forme de violation des droits humains. Martin Kobler ajoute que cette journée doit aussi être utilisée par les groupes armés pour réfléchir aux avantages de la paix sur les violences. Comment analyser la célébration de cette journée et quel pourrait être son impact sur l'avènement d'une paix durable en RDC? C'est notre thème de ce soir. Nos invités dans cette émission sont Général Abdallah Wafi, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC. Mon général, bonsoir.
Bonsoir.
Monsieur le gouverneur Julien Paluku, gouverneur de la province du Nord Kivu. Monsieur le gouverneur, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Professeur Arsène Mouaka, député national de l'opposition et cadre du parti politique DCFN. Professeur, bonsoir.
Bonsoir, Alain.
Merci de nous recevoir chez vous.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
Le 21 septembre, le monde entier célèbre la Journée internationale de la paix. Comme chaque année, à cette occasion, l'Organisation des Nations Unies appelle à un cessez-le-feu mondial. Pour le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, la paix et la sécurité sont indispensables au progrès social et au développement durable. Martin Kobler, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, dans un message que nous vous proposons, avait appelé tout le monde à la consolidation de la paix. Martin Kobler.
Chères auditrices, auditeurs de Radio Capi, bonjour, c'est Martin Kobler, le chef de la MONUSCO. Dimanche, le 21 septembre, le monde entier célèbre la Journée internationale de la paix. Une journée de paix et de calme. Une journée sans violence, sans viol, sans enlèvement et sans extorsion. J'appelle tous les groupes armés en RDC à stopper les combats et mettre fin aux violations des droits humains. Cette journée doit aussi être utilisée par les groupes armés pour réfléchir aux avantages de la paix sur la violence. J'ai également demandé à la force de la MONUSCO d'observer cette journée de la paix. Cette journée ne doit pas être unique. Cette journée, c'est le début d'un mouvement pour une paix durable amenant à la stabilité et à la prospérité du peuple de la République démocratique du Congo. Plus de violence, plus de viol, plus d'enlèvement ou d'extorsion.
C'est parti pour une paix durable au Nord Kivu, en RDC et dans la région des Grands Lacs. La paix, c'est possible. Enterrons la hache des guerres et serrons-nous les coudes pour bâtir notre pays. Autant de propos qui sont revenus dans les messages des intervenants lors du méga-concert de la star américaine Akon dimanche dernier à l'aéroport de Goma. La manifestation marquait la célébration de la Journée mondiale de la paix. Une organisation de la Fondation Peace One Day, au moins 40 000 personnes ont répondu à ce rendez-vous de la paix. Sifa Maguro.
Pendant au moins 4 heures, la ville de Goma a vibré au rythme de la paix avec un concert riche en couleurs. Au moins 40 000 personnes, spécialement des jeunes, ont célébré la paix à cette occasion. Les artistes congolais Lexis Legal, Deti Darba ainsi que le comédien Zimbukuli ont assuré la première partie du show avant l'arrivée des Akon qui a enflammé le public pendant plus de 2 heures avec des chansons phares comme Mama Africa ou Chop My Money qu'il a chanté en featuring avec Square. Les fondateurs de Peace One Day, Jérémy Gillet, le gouverneur Julien Paluku et Martin Kobler, le chef de la MONUSCO, sont ensuite intervenus tour à tour pour livrer les messages de paix et appeler les groupes armés à déposer les armes. L'un des 400 invités spéciaux de cet événement, le député provincial Ushindi Kelundawa, donne ici son appréciation.
Je viens vraiment d'apprécier cette grande organisation, ce concert de la paix. Et moi, je dirais que la paix s'installe dès aujourd'hui et la paix va continuer.
Cette manifestation s'est terminée sans aucun incident. La sécurité était assurée par la police nationale, la police de la MONUSCO et les FARDC. Goma, Sifa Maguro, Radio Okapi.
Merci Sifa Maguro. Général Abdallah Wafi, vous êtes représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC. Qu'est-ce que la Journée internationale de la paix représente pour les Nations Unies?
Alors, je voudrais d'abord, avant de répondre à votre question, saisir l'occasion de la présence du gouverneur Julien Paluku pour remercier les autorités du Nord Kivu, à la tête le gouverneur naturellement, pour tout l'appui qui a été apporté pour ce méga concert qui s'est tenu à l'aéroport de Goma. Alors, bien sûr, pour nous, cette journée est une journée d'abord dédiée à la paix, une journée de réflexion sur le chemin parcouru, sur le chemin de la quête de la paix, mais aussi sur les actions futures pour pouvoir consolider la paix. Alors, tous les messages qui ont été délivrés, que ce soit celui du secrétaire général des Nations Unies ou de son représentant Martin Kobler, reprennent les mêmes préoccupations, les mêmes considérations. C'est une journée que nous avons voulu célébrer dans la paix, sans violence, avec un cessez-le-feu, avec l'arrêt de toute forme de violence, que ce soit dans le Nord Kivu ou dans les autres parties du monde. Non, c'est pas un vœu pieux, c'est pas, vous savez, c'est peut-être même un rêve, mais rien de grand ne se construit dans le monde sans rêve. Il faut avoir de la volonté, il faut avoir ce rêve de paix. Bien sûr, ici et là, nous voyons des foyers de tension, des conflits en Afrique, ailleurs dans le monde. Mais je pense qu'il y a aussi des raisons d'espérer. On voit des pays émerger de conflits, on voit des progrès pour l'humanité. Et nous pouvons, nous, moi je préfère être positif, être optimiste pour l'avenir et continuer à nous battre pour la restauration de la paix pour toute l'humanité, mais pour la RDC, pour ce qui nous concerne.
Alors en ce qui concerne la RDC, Martin Kobler a appelé les groupes armés à stopper les combats, à mettre fin à toute forme de violation des droits humains pour les Nations Unies. À quel niveau se trouve le processus de paix en RDC?
Pour nous, l'évaluation que nous faisons du processus de paix en RDC, c'est que, comme vous pouvez le voir, beaucoup de progrès ont été réalisés. Et ces progrès sont à mettre naturellement à l'actif des autorités congolaises, des forces de défense et de sécurité congolaises, mais aussi de l'appui que nous avons apporté pour accompagner les autorités politiques nationales, provinciales, les forces de défense et de sécurité, les FARDC, la PNC, pour pouvoir mettre fin à cette situation d'insécurité, à la guerre, il faut carrément appeler les choses par leur nom, à la guerre, face au M23, il y a eu la guerre, mais aussi face à d'autres groupes qui continuent à commettre des atrocités, à contester l'autorité de l'État, à créer des situations d'instabilité, que ce soit des groupes nationaux ou des groupes étrangers, tels que l'FDLR, tels que l'ADF Nalu, les FNL burundais. Mais l'évaluation que nous faisons, c'est une évaluation positive. Nous sommes sur le bon chemin. Et je pense que grâce à la conjugaison des efforts de tous les partenaires impliqués, que ce soit les Nations Unies, que ce soit les autorités nationales, les forces de défense et de sécurité, moi, je suis très optimiste, je suis convaincu que cette coopération, si cette coopération continue, nous pouvons, dans les mois à venir, mettre fin définitivement au spectre de l'instabilité de la guerre dans ce pays.
Il y a Pépé Lissungi qui nous écrit de Kisangani qui dit « Ne voyez-vous pas que cette journée et la déclaration du secrétaire général de l'ONU que ça n'a pas de place en Afrique, surtout en RDC. Pourquoi nous distraire en attaquant les effets au lieu d'attaquer les causes? Pouvez-vous me dire que le secrétaire général de l'ONU ignore les aspects qui font que l'Afrique, surtout la RDC, ne puisse pas être en paix, entre autres là? Il y a la pauvreté, la mauvaise distribution des richesses et la mauvaise gestion politique du pays. Qu'est-ce que vous lui répondez?
Mais je lui réponds d'abord que le message du secrétaire général ne concerne pas que la RDC, il s'adresse au monde entier au nom des Nations Unies. Les causes de conflit, que ce soit en Afrique, que ce soit ailleurs, en Afrique, je veux parler aujourd'hui de la situation qui prévaut en Centrafrique, je veux parler du Mali, entre autres. Mais vous savez, dès qu'il y a rupture de la paix, il y a forcément problème. Il y a forcément des causes structurelles, des causes conjoncturelles qu'il faut adresser. Et je pense que dans notre action, dans notre mandat, dans la résolution du Conseil de sécurité, notre mission est une mission multidimensionnelle. Nous n'avons pas que la force de la MONUSCO pour appuyer les opérations de guerre. Nous avons aussi le renforcement de capacités dans d'autres domaines. Je vais parler de la police pour la restauration de l'autorité de l'État. Je vais parler de l'appui à la justice, à la lutte contre l'impunité, à la poursuite des responsables de graves violations de droits de l'homme, qu'ils soient des acteurs étatiques ou non étatiques. Donc je pense que il faudrait peut-être avoir beaucoup plus de recul pour pouvoir mesurer la façon dont les Nations Unies ont adressé la question du retour de la paix, de la fin de l'instabilité en RDC.
Alors, en parlant de la police, de l'armée, on sait qu'il y a tout un processus en ce qui concerne la réforme du secteur de la sécurité, de l'armée, de la police, des services de renseignement même. Comment vous évaluez l'apport des Nations Unies dans ces secteurs?
Écoutez, je suis bien placé pour vous en parler parce que pendant plus de 3 ans et demi, j'ai dirigé la police des Nations Unies à RDC. Et à ce titre, nous avons contribué à travers le comité de suivi de réforme de la PNC, le CSRP, avec le général LLC et avec toutes les parties prenantes, y compris la police de l'Union Européenne, EUPOL. Nous avons mis en place des groupes de travail, nous avons appuyé la conceptualisation et aujourd'hui, grâce à ce travail avec les experts congolais, avec la société civile, la PNC est dotée de textes fondateurs avec beaucoup de travail qui a été fait. Et maintenant, nous en sommes à la mise en œuvre. Il faut, parce que la qualité des textes, que ce soit la loi organique, le statut du policier, et tout ce qui a été prévu, ne vaut que par l'application, la mise en œuvre. Aujourd'hui, nous appuyons cette mise en œuvre pour que la PNC puisse avoir les dividendes de cette réforme. Bien sûr, au niveau de l'armée, on n'a pas le même état d'avancement de la réforme. Mais là aussi, vous savez, c'est des questions de souveraineté. C'est des questions très délicates. Mais nous ne désespérons pas, dans les mois à venir, voir des avancées significatives là aussi. Vous avez dû le remarquer, l'effet positif de cette réforme des FARDC. Vous avez vu contre le M23, vous voyez aujourd'hui contre les ADF.
Monsieur le gouverneur Julien Paluku, vous êtes gouverneur de la province du Nord Kivu. Sous quel signe vous avez placé la célébration de cette journée internationale de la paix?
Oui, merci à mon tour. Je voudrais saluer le général Wafi ainsi que le professeur Arsène Mwaka, tous les auditeurs de la radio Capi, bien entendu. Et je pense que c'est par un sentiment de satisfaction que nous avons célébré au Nord Kivu cette journée internationale de la paix. Vous savez, c'est une journée qui n'a pas été créée pour Goma seulement. Elle a été instituée depuis 1981. Et nous avons été au 33e anniversaire à Goma. Donc je suis heureux que ça s'est passé très bien à Goma, que le message soit lancé à toutes les couches de la population. Parce que cette journée, comme vous le savez, c'est comme un rappel de ce que la guerre a coûté à l'humanité. Et vous savez, le Nord Kivu a perdu beaucoup de vies humaines. Le Nord Kivu a connu beaucoup de déplacés. Le Nord Kivu a été peut-être abusivement, ou à tort ou à raison, appelé capitale mondiale du viol. Et je crois aujourd'hui, disons le 21, lorsqu'on a célébré cette date à Goma, sans qu'on s'appelle capitale mondiale du viol, sans qu'on s'appelle regroupement des déplacés internes, sans qu'on s'appelle centre des atrocités, je crois que c'était sentiment de satisfaction pour voir une population en joie, une population qui a accueilli une grande star du RNB qui est arrivée, qu'on n'a jamais vue à Goma, qu'on attend souvent, et qui a fait vibrer toute la ville au rythme d'une nouvelle image, à lieu et place cette image sombre qu'on a toujours répandue à travers le monde. Donc c'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons organisé cette journée. C'est donc, je salue l'initiative de Peace One Day, les Nations Unies et le gouvernement congolais qui ont accepté que Goma montre à la face du monde une autre image.
Alors, au-delà, monsieur le gouverneur, de cet aspect festif, quel est le message que vous avez adressé à la population en ce qui concerne la paix?
Oui, je pense que ce n'est même pas moi-même qui ai adressé le message. La grande star qui est arrivée par cette manifestation était elle-même porteuse d'un grand message. D'abord, à l'égard de la jeunesse. Vous savez, Ekon, c'est un grand millionnaire. Et il a démontré par la démonstration qu'il a pu faire, permettez la tautologie, qu'on peut avoir l'argent, on peut avoir la vie autrement que par les armes. Il n'a que 41 ans, je crois, il est né à 71, à 73. Il est millionnaire aujourd'hui à 41 ans. Il s'est adressé à la jeunesse congolaise pour dire « Faites comme moi pour gagner la vie. Faites comme d'autres qui ont gagné la vie. Faites comme Arsène Mwaka qui est professeur qui gagne sa vie. Faites comme Abdallah Wafi qui gagne sa vie parce qu'il a étudié. Pourquoi pas faites comme Julien Paluku qui est gouverneur parce qu'il a étudié. » Donc c'est un grand message qu'il a lancé à l'endroit de toute la communauté, aussi bien nationale qu'internationale. Un deuxième message, je crois que il a fait une diplomatie de la musique. Par la musique, il s'est adressé à ces réseaux internationaux qui créent la guerre. Parce que je sais que un de mes enseignants me disait que la guerre est une situation créée par des gens qui se connaissent pour que ceux qui ne se connaissent pas puissent s'entretuer. Je crois que c'est adressé à ces gens-là pour dire, vous qui créez la guerre, voici l'ambiance qu'il y a à Goma, voici comment les gens veulent vivre ensemble. Ça, c'est pour moi un deuxième message. Peut-être un troisième message est qu'on a fait pour nous un plaidoyer. Un peu de la RDC pour dire, ce pays offre une autre image. À vous les investisseurs qui êtes à l'étranger, à vous les touristes, je suis millionnaire, je suis arrivé, je n'ai pas été tué, vous pouvez également arriver dans ce pays et faire vos business. Pour moi, C'est ça le sens que je donne à cette journée internationale qui était célébrée à Goma et qui était porteuse d'un message d'espoir pour les populations. C'est bien, les gens de Masisi, de Walikale, de Beni, de Lubero ont difficile à comprendre ce genre d'analyse. Parce que dire qu'il y a une stade à la RNB, c'est pas tout le monde qui comprend de qui il s'agit.
Alors, monsieur le gouverneur, le général Wafi l'a dit, à l'instar de Ban Ki-moon et de Martin Kobler, qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits en RDC en matière de paix. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Je partage à 100% le point de vue, parce que je suis témoin, ça fait 7 ans que je dirige la province du Nord Kivu. J'ai connu les péripéties des guerres diverses. J'ai connu 1 million de déplacés aux alentours de Goma. J'ai connu la ville de Goma qui était asphyxiée, qui était en tenaille, qui était même envahie par des rebelles. J'ai connu comment tout cela a été fait. Et lorsque j'ai fait une comparaison, une analyse comparative entre la situation il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 7 ans et la situation actuelle, je me dis, eh bien, nous avons connu une pluie torrentielle. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce ne sont que des gouttelettes qui tombent avec une pluie, après une pluie torrentielle, qui ne sont pas à comparer avec une pluie elle-même. Donc je crois que s'il y a des petites choses qui s'observent aujourd'hui, on ne doit pas, à la suite de ces gouttelettes, dire qu'il y a encore la pluie torrentielle. Et évidemment, pour la paix, les gens voudraient vivre à 100% à l'aise. Mais j'ai toujours dit qu'il n'y a aucun pays au monde où il y a un taux de criminalité zéro. Donc pour moi, il y a beaucoup d'avancées sur tous les plans et dans tous les secteurs, même si beaucoup reste encore à faire, parce que l'humanité, elle est faite ainsi.
Alors, monsieur le gouverneur, avant que je ne donne la parole au professeur Mouaka, vous avez tout à l'heure évoqué l'aspect selon lequel l'artiste musicien Econ a pratiqué la diplomatie de la musique, une forme de lobbying international, mais il fallait quand même qu'avec la musique congolaise qui est si connue qu'on ait plus d'ambassadeurs pour parler au nom de la RDC sur le plan international. Malheureusement, ce n'est pas le cas.
Oui, vous dites malheureusement ce n'est pas le cas, moi je dirais heureusement ça a été le cas. Parce que si c'était des musiciens congolais, ils se seraient limités à l'espace congolais, ils seraient rentrés à Kinshasa et chantés à Lingala et personne ne les aurait écoutés. Mais aujourd'hui que les images ont fait le tour du monde, on m'a dit parce que j'étais à la tribune que ça passait sur une télévision internationale. Donc à New York, à Washington, à Los Angeles, à Californie, à Londres, on a suivi, on a vu l'image de notre Congo, de notre Goma, de notre Nord Kivu. Donc je crois que les Nations Unies et les gouvernements n'ont pas amené Econ pour venir exhiber la danse, mais ils l'ont amené que pour qu'à son retour dans son milieu d'origine, eh bien, il fasse parler de Goma, il fasse parler du Nord Kivu, et c'est cela le sens que je donne à sa présence. Ça aurait été quelqu'un venu de Kinshasa ou un musicien local, il se serait adressé à ses tantes et à ses sœurs et ça serait terminé là. La guerre n'est pas créée par les enfants du Nord Kivu, vous le savez. La guerre est créée par des structures qui sont connues. Et c'est à cela qu'on s'est adressé lorsqu'on a fait venir ce grand monsieur qui va faire passer les images à travers le monde. Rappelez-vous que lorsque l'apartheid a pris fin, il n'y a pas que Mandela qui a combattu. Il y a la dame Myriam Makeba qui, par ses chansons, par tout ce qu'elle a fait, elle a porté les pleurs, les souffrances des enfants de l'Afrique du Sud à travers le monde. Et c'est cela, associé à d'autres efforts, qui ont fait que finalement les gens, en voyant comment les peuples sud-africains ont souffert, les gens ont finalement dit non, on doit mettre fin à ce système. Donc je crois que c'est une pratique importante que nous avons vécue et qui est porteuse d'espoir et qui a été initiée et par les Nations Unies et par le gouvernement, que nous remercions vivement pour cela.
Professeur Arsène Mouaka, vous êtes député national de l'opposition et cadre du parti politique DCFN. Professeur, comment vous analysez la célébration de cette journée internationale de la paix?
Oui, je crois que c'est une journée assez significative. C'est une journée un peu, je dirais, un échantillon de ce que devrait être le monde, c'est-à-dire un monde sans guerre, puisque c'est dans cette acception que cette journée du 21 septembre a été instituée par les Nations Unies. C'est-à-dire, la paix, dans cette acception, elle signifie tout simplement l'absence de guerre. Mais je crois que, si on peut voir la paix à ce terme, je crois que pour le Congo, il faut aller au-delà. Il est vrai que paix signifie absence de guerre, mais au-delà de ce sens, il y a encore davantage, c'est-à-dire il y a une paix psychologique qui dépend à grande partie de la gouvernance qui mérite d'être obtenue au Congo. C'est cette paix-là qui se retrouve dans les assiettes, c'est cette paix-là qui se retrouve dans les poches, cette paix-là qui se retrouve dans les maisons, quand les gens ne savent plus sur qui est le soir, puisqu'on doit leur arracher le téléphone. Bref, c'est cette absence de tranquillité, cette absence de quiétude et une peur constante de ce qui pourrait arriver. C'est-à-dire ne pas avoir la certitude que ce qu'on est en train de vivre à l'instant est susceptible de se pérenniser. Par exemple, à Goma, où on joue un concert, et ainsi de suite, c'est très bon, il n'y a pas de guerre dans la ville. Mais entre-temps, dans les cœurs des gens bouillonne la peur de ce que sera demain. Les gens se posent des questions si la gouvernance que nous avons est susceptible de permettre à ce que le petit bon moment qu'ils ont dans l'aéroport puisse continuer. La première des choses, c'est de dire, est-ce que je veux bien atterrir à Goma, par exemple? Puisque à chaque fois qu'on atterrit et qu'on décolle, eh bien, on dit merci à Dieu. Et au Congo, on a carrément pris l'habitude d'applaudir dans les avions, puisque on n'est pas en paix quand on se décide de voyager, tout simplement, puisque la gestion des infrastructures aéroportuaires ne met pas les gens en paix. Et donc, c'est cette autre dimension qui est psychologique, qui est différente de la première dimension sociologique qui est privilégiée par les Nations Unies, qui est aussi importante. Et je pense que les efforts doivent être conjugués, c'est-à-dire d'un côté, lutter contre les éléments susceptibles de déclencher des guerres, mais au même moment, lutter contre ce qui n'est pas directement visible mais qui ronge la population, le gouverneur venait de le dire, de cette violence constante et des conflits permanents, des brutalités qui pratiquement collent à notre société. Et il ne suffit pas de dire peut-être qu'il n'y a pas une société sans violence, mais je pense que la paix signifie la manière dont on gère ces moments de violence, ces conflits, la manière dont on intervient, c'est-à-dire tu es menacé. Il y a une police qui t'a donné un numéro vert, tu peux appeler, tu peux être en paix en te disant, si le monsieur bouge, eh bien moi je vais juste faire un coup de fil et le coup de fil peut me sauver. C'est vers ça qu'on doit aller. Et quand c'est peut-être l'agent qui est susceptible de venir à ton aide, qui t'arrache le téléphone au coin des rues, même quand il n'y a pas guerre, eh bien on n'est pas en paix. Et donc je crois qu'il y a des efforts réellement qu'on doit fournir.
Alors, professeur, là, vous venez d'épingler quelques exemples, mais on sait que vous revenez des vacances parlementaires. Professeur, là d'où vous venez, comment ça se passe? Comment les habitants, vos électeurs vivent-ils cette paix?
Je crois qu'il y a quand même deux choses qu'il faut dire pour le Nord Kivu. Il y a un côté effort visible fourni par notre gouvernement et par la communauté internationale, notamment la MONUSCO et tous ceux qui interviennent de façon diplomatique et politique pour que nous soyons en paix. Et donc il y a des efforts, par exemple l'action contre le M23, eh bien on ne voit pas le M23. Mais au même moment qu'on ne voit pas le M23, au Nord Kivu, les gens ne sont pas en paix, d'autant plus qu'ils savent que le M23 est regroupé quelque part dans un pays voisin. Ils se demandent si c'est vrai. Il y a des incertitudes au même moment qu'il y a une très bonne action, mais on n'est pas allé jusqu'au bout pour rassurer que ces gens ne vaut plus être réarmé. Au même moment, on apprend à gauche, à droite, que bon, il y a un homme, je ne sais pas combien, qui est en train de recruter, qui est en train de faire ceci. Les gens ne vivent pas ce que peut-être nous disons par nos bouches pour dire la paix est revenue, et ainsi de suite. C'est pas si idyllique que ça. Il y a un côté réel, c'est qu'il y a eu des actions concrètes. En 4 jours, notre armée nationale, avec l'aide de la MONUSCO et de tous ceux qui sont intervenus, on a pu se débarrasser de quelque chose qui faisait très mal. En 4 jours. Mais d'autre part, ils sont juste à côté. On n'est pas très sûr que le voisin n'est pas en train de comploter encore autre chose, ainsi de suite. Et donc, au même moment, on n'est pas en paix. Il y a une paix sociologique qui est là, il n'y a pas de M23. Psychologiquement, les gens vivent mal. Vous allez à Beni, c'est la même chose. On sait qu'on a sensiblement réduit les capacités des EDF, ainsi de suite. Bon, au même moment, il y a quand même des militaires qui sont sur la route de Kamango, on est encore dans les opérations, et donc la paix n'est pas totalement là.
Alors, professeur, j'aimerais avoir votre commentaire sur la diplomatie par l'art et la culture dont a parlé le gouverneur Julien Paluku.
C'est un élément essentiel, c'est-à-dire, ça c'est un des moyens, un des meilleurs canaux pour pouvoir susciter les gens à bien faire. Le gouverneur l'a bien analysé, eh bien, on peut montrer aux gens qu'on peut être un artiste et bien vivre. Il ne suffit pas d'être nécessairement politicien ou militariste pour pouvoir vivre. Et je pense que ça, nous devons davantage le renforcer. Mais ça ne doit pas être des actions ponctuelles, ça doit être une politique de la promotion de la culture. C'est-à-dire, on s'occupe de nos musiciens qui sont talentueux et on met des structures qui leur permettent d'évoluer, et c'est à travers des politiques publiques concrètes, avec des indicateurs clairs, objectifs, vérifiables, à l'issue d'une durée. C'est cela, construire la paix.
Général Wafi, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Augustin Matata à Kinshasa, j'appelle de Lemba. Une journée de danse ne peut convaincre les groupes armés qui ne sont pas des enfants de cœur à déposer les armes. Ce budget aurait pu servir la MONUSCO à traquer davantage les forces négatives. En attendant la prochaine journée de danse, seule la poudre va résonner ces hommes qui vivent des différents crimes contre la population.
Réaction générale Wafi.
Oui, comme je crois que en ce qui concerne ce méga concert qui a été organisé à Goma à l'occasion de la Journée internationale de la paix, le gouverneur Paluku a bien insisté sur l'impact psychologique positif pour que je revienne sur cet aspect des choses. Je voulais simplement dire que ce n'est pas parce que nous avons organisé ce concert, ce n'est pas parce que nous avons lancé ces appels, nous ne sommes pas naïfs. C'est une journée internationale dédiée à la paix. Mais nos opérations militaires continuent. Que ce soit les FRDC, les forces de défense et de sécurité congolaises, que ce soit la force de la MONUSCO, nous continuerons à le faire, à pourchasser tous ces groupes armés jusqu'à leur éradication totale. C'est notre mandat, c'est notre engagement, nous allons le faire. Je voudrais, en ce qui concerne les préoccupations que le professeur Arsène Mouaka a soulevées, vraiment, je partage largement ces préoccupations en ce qui concerne le M23 qui, comme vous le savez, a été défait militairement, mais qui est là. Alors je voudrais le rassurer pour lui dire que nous sommes avec toutes les parties prenantes, avec les autorités congolaises, en train d'étudier les voies et moyens pour ramener tous ces éléments-là dans le processus de DDR. Et dans les jours qui viennent, et je suis à Kinshasa, en grande partie pour entreprendre les consultations avec le gouvernement, pour voir comment appuyer les autorités pour les ramener, notamment à Kamina, où on va commencer à préparer leur réinsertion, notamment par la construction d'un camp de préparation à la réinsertion à Kanyama Kasese, dans le Katanga, c'est le choix du gouvernement et nous allons l'appuyer. Donc, c'est vrai, je comprends votre impatience et votre préoccupation légitime, mais nous sommes en train d'y travailler. En ce qui concerne l'ADF, vous êtes élu du territoire de Beni. Je voudrais rendre hommage aux FRDC qui ont payé un prix très lourd. Vraiment, nous sommes au niveau de la MONUSCO, de la force de la MONUSCO, très impressionnés par le sacrifice, le don de soi de ces militaires qui se sont battus pour libérer leur territoire définitivement de cette gangrène que constitue l'ADF. Ce n'est pas fini, nous continuons à Kamangou, à Beni, à Medina, à Mbao, sur tout l'axe pour sécuriser définitivement parce que nous voulons faire un travail de longue haleine. Alors, l'un n'exclut pas l'autre. Le fait d'avoir organisé ce spectacle dédié à la paix à Goma n'exclut pas la poursuite et l'intensification de nos opérations militaires.
Alors, Général Wafi, vous venez de parler des ADF. Il y a aussi la question des FDLR. On a reçu beaucoup de messages des auditeurs qui voudraient savoir où est-ce qu'on en est avec les FDLR.
Alors, les FDLR, très rapidement, sont rentrés dans les détails. Ils ont fait une offre de désarmement volontaire que le gouvernement congolais a accepté, que la SADC et la Conférence internationale de la région de la Grand Lac ont accepté. Aujourd'hui, cette question des FDLR est prise à bras le corps par les Nations Unies, l'Union africaine, la SADC, la communauté internationale de la région de la Grand Lac et les autorités congolaises. Un délai de 6 mois leur a été accordé pour qu'ils désarment, ou alors ce sera des opérations militaires contre eux. Hier, il y a eu à New York, en marge de l'Assemblée générale, des consultations au plus haut niveau politique des chefs d'État de la SADC pour évaluer le processus. Mais comme décidé, le 2 octobre, il y aura la revue à mi-parcours du processus et les autorités compétentes que je viens de citer, vont évaluer le processus et, le cas échéant, édicter des mesures. Mais sachez-le, notre mandat et la volonté des autorités congolaises, ainsi que de toutes les autres autorités de la SADC, la SDR et des Nations Unies, c'est d'en finir avec tous les groupes armés. Pour nous, il n'y a pas de bons groupes armés, de mauvais groupes armés. Tous les groupes armés doivent désarmer. Il n'y a que l'autorité de l'État congolais
qui doit être partout sur le territoire congolais.
Alors, un mot, Général Wafi, sur le triangle de la mort, également au Katanga, qui est un véritable problème, l'axe Mitoa-Bapweto-Manono, où est-ce qu'on en est à ce jour?
C'est vrai, là aussi, c'est un motif de préoccupation, la situation qui prévaut dans le Katanga, nous le suivons avec les autorités congolaises, et nous avons décidé aussi, là aussi, de déployer des forces supplémentaires pour pouvoir sécuriser ces zones. Vous le savez, le triangle, le fameux triangle de la mort, Mitoaba, Manono, mais jusqu'à Pweto aujourd'hui, Pweto, oui. Nous avons des conflits intercommunautaires entre les Luba, les Pygmées, mais aussi sur fond de mouvement Katakatanga. Alors, je crois que cette situation aussi mérite d'être adressée. Mais là aussi, je voudrais vous rassurer, au niveau de la mission, de la MONUSCO, avec les autorités congolaises, nous sommes en train de réfléchir pour voir le dispositif à mettre en œuvre pour adresser vraiment cette situation avant qu'elle ne prenne des dimensions catastrophiques.
Monsieur le gouverneur, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani en province orientale.
Pichuchi Manga de Kisangani, province orientale. Pour avoir une paix durable en République démocratique du Congo, nos autorités doivent avoir un esprit patriotique en privilégiant l'intérêt général de la nation afin de favoriser une répartition équitable des ressources nationales, car plusieurs désordres sont dus à l'intérêt égoïste.
Monsieur le gouverneur, la paix a des préalables.
Oui, la paix a des préalables, mais les préalables n'excluent pas qu'on puisse s'engager vers la paix. Donc je crois que le peuple congolais doit quitter de plus en plus le pessimisme. Moi, je dois inviter le peuple congolais à lire la déclaration de l'UNESCO qui dit souvent que la guerre prend naissance dans l'esprit des hommes et des femmes et que c'est dans cet esprit des hommes et des femmes que doivent s'élever les stratégies de défense de la paix. Donc je crois qu'ensemble, nous devons concevoir ces stratégies de défense de la paix au lieu de croire qu'il y a d'un côté les acteurs et de l'autre les observateurs. L'ami de Kisangani a raison de pouvoir évoquer cela, ça se dit tout le temps. Et je crois que les efforts qui doivent être faits continuellement, c'est de rencontrer ces préoccupations pour dire que le peuple congolais doit commencer à voir les retombées de ses revenus, les retombées de la croissance, les retombées de toutes ces politiques qui sont mises en place pour que de plus en plus les gens sentent qu'ils sont pris à compte. Mais, à contrario, il ne faudrait pas que les gens pensent que parce qu'ils n'ont pas trouvé satisfaction, qu'ils ont le droit de prendre les armes contre leur propre pays. Sinon, partout au monde, on prendrait des armes. Donc, je crois que c'est cela l'analyse que j'ai fait par rapport à notre ami de Kisangani.
Monsieur le gouverneur, il y a Sylvain Kasongo qui nous écrit de Manono au Katanga qui dit « Pour que la paix ne soit pas qu'un idéal, des belles paroles, une solution régionale s'impose. Les grandes rébellions sont entretenues par nos voisins qui également versent les leurs dans notre pays. Martin Kobler et les autres membres de la communauté internationale sont capables de les dissuader. Sinon, ils trouveront toujours un prétexte, soit pour nous agresser, soit pour réveiller les différentes rébellions qu'ils parrainent. »
Oui, tout à fait. Je me rappelle que j'avais fait une conférence, je crois, à Goma, où j'avais développé une réflexion par rapport à ce que j'appelle la stratégie à 5 piliers pour qu'il y ait la paix à l'est de la RDC, dans la région de Gralac. Il y a presque 5 niveaux. Il y a les niveaux internationaux, il y a les niveaux sous-régional, il y a les niveaux régionaux, il y a les niveaux nationaux et les niveaux locaux. C'est à ces différents niveaux que doivent se situer les stratégies pour qu'on arrive à une paix durable. Si on pense qu'on peut se retrouver délocalisé dans le Nord Katanga, délocalisé à Beni, délocalisé dans les Masisi, et croire que c'est de façon isolée qu'on va concevoir les stratégies de paix, eh bien on sera loin d'y arriver. Il faut à la fois qu'on associe les différents piliers que je viens de citer tout à l'heure pour qu'on en arrive à une paix durable, parce que les acteurs des conflits ne sont pas que locaux, ne sont pas que provinciaux, ne sont pas que nationaux, ne sont pas que sous-régionaux, ne sont pas que internationaux. Ils se retrouvent à tous les niveaux. Et donc la dimension pour attaquer les questions de développement doivent toucher tous les 5 piliers pour qu'on en arrive à une paix durable.
Monsieur le gouverneur, on se souvient aussi que dans cette émission, plusieurs fois, et plusieurs observateurs avaient proposé que la province du Nord Kivu soit déclarée province sinistrée. La paix, c'est aussi tout le processus de développement qui doit suivre après qu'il y ait eu beaucoup d'efforts qui soient fournis en termes de réduction de forces de nuisance sur terrain. Où est-ce aujourd'hui?
Oui, moi je crois que la simple déclaration d'une province pour qu'elle soit appelée sinistrée ne suffit pas. Ce qui compte pour qu'une province soit réellement déclaré sinistré, c'est la politique qu'on doit mettre en place pour l'accompagner. Et je crois que c'est cela que nous avons plusieurs fois demandé au gouvernement, au lieu qu'on se limite à la simple déclaration de dire « le Nord Kivu est une province sinistrée », mais que des actions soient amorcées pour que les populations qui ont vécu avec les M23, qui ont vécu avec les EDF Nalu, qui ont vécu avec les FDLR, qui ont vécu avec les 23 groupes armés de Maïmaï, puissent trouver un autre Nord Kivu différent de celui-là que je viens de décrire. Donc c'est cela la véritable déclaration d'une province sinistrée, et non pas la simple communication dans les médias ou des affiches pour dire que l'on est sinistré. Donc pour moi, c'est plus des actions qui comptent que les déclarations d'une province dite sinistrée.
Professeur Mwanka, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient du Katanga.
Kahiri Matembera, j'appelle de Kalemi au Katanga. À mon avis, je pense que pour qu'il y ait la paix, il faut se parler et mettre en examen toutes les déclarations en faveur de la paix, car la minorité des vrais acteurs de la paix et le chargé de vente d'armes légalement et illégalement, et même les pillards de nos ressources, tous parlent de la paix, mais tous ne la cherchent pas.
Professeur.
Oui, je crois que pour qu'il y ait paix, il doit y avoir négociation, et il doit y avoir dialogue. Et donc je crois que c'est ce que l'auditeur Matéba de Kalemi est en train de dire. Mais je pense que c'est une seule dimension. La paix doit se construire. Je crois que ce sont des notions élémentaires que de dire que autant les gens se fourvoient à pouvoir insécuriser les autres, autant les gens créent des conditions pour qu'il y ait guerre, autant les gens doivent se déployer et déployer autant de moyens pour construire la paix. Et donc, dès lors qu'il n'y a pas une politique, dès lors qu'il n'y a pas une décision pour construire la paix, je pense qu'il n'y aura rien. Et la paix, comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement l'absence de la guerre. La paix, c'est aussi enrayer tout ce qui est de nature, à ne pas créer la paix intérieure, à ne pas créer la paix dans les assiettes des gens. Et donc, une politique sociale, ainsi de suite, c'est beaucoup de choses, la paix. C'est plus que dialoguer, c'est plus que parler. Et je voudrais insister pour dire, souvent, on prend la paix comme une question morale. On est en politique. Je pense qu'on doit beaucoup plus prendre la paix comme une question politique. À d'autres termes, on peut se donner des objectifs à atteindre qui sont évaluables après un certain nombre de temps et on les poursuit. Mais j'ai comme l'impression que souvent, tout le monde veut devenir prêtre, tout le monde veut devenir pasteur et moraliser la population. Je pense qu'on perd l'objectif.
Professeur, il y a Robert Kabandani qui nous écrit de Bukavu qui dit « L'impact de la célébration de la journée de la paix à Goma est moindre aussi longtemps que les armes continuent à être vendues à destination de notre pays. Le commerce des armes, ça reste aussi un problème. »
Oui, un réel problème, mais bon, on ne doit pas pour autant négliger une action. Je pense que c'est de la conjonction de plusieurs actions qu'on aura la paix au Congo et donc qu'ils permettent quand même aux gens de danser. Nous sommes le Congo. C'est un pays de danseurs, on ne doit pas en avoir honte, c'est un pays de chanteurs, que ce soit dans les églises, que ce soit dans des bars, partout. Nous chantons, nous dansons, nous travaillons aussi à chanter et à danser. Et donc, je ne pense pas qu'il puisse empêcher aux gens. Mais le commerce des armes est réel, et c'est là que je dis, il doit y avoir une politique qui doit être cohérente. On doit savoir qu'est-ce qui dérange la paix au Congo, et ne pas multiplier des occasions pour que les gens puissent encore réchuter dans la guerre, genre révision constitutionnelle, c'est-à-dire pendant très longtemps on a eu la crise de légitimité, on cherche encore à la reproduire. Mais voilà des acteurs d'instabilité de notre pays, des gens qui ne travaillent pas pour la paix. Et donc on doit s'efforcer pour créer des conditions pour qu'il y ait la paix. Et parmi ces conditions, c'est respecter une constitution. C'est aussi simple que ça.
Alors professeur, quel pourrait être l'impact de la célébration de cette journée de la paix sur l'avènement d'une paix durable en RDC?
Bon. Je pense qu'on peut se souvenir qu'un jour, on a demandé aux miliciens et autres de ne pas tirer. Et j'espère qu'ils n'ont pas tiré. Et on peut aussi se demander si à Goma, il peut être possible une soirée, que les gens sortent, qu'ils aillent, qu'ils reviennent. Hein, parce qu'à Goma, depuis 90, à 19h, tout le monde doit être chez lui. Il y a ce qu'on appelle l'opération 19h. Ça n'a pas cessé. Donc je pense qu'il y a un travail et cette journée nous montre que Goma a besoin aussi de vibrer, de danser, ainsi de suite. C'est vrai que ce n'est pas ce que ça a été pendant des moments très difficiles quand le M23 était à la porte de Goma, ce n'est plus la même chose. Mais je pense qu'il y a des efforts, il y a réellement des efforts. On doit équiper la police, doter la police des uniformes. Même les grades, ça pose problème dans l'armée. On te donne un grade, mais tu ne sais pas accéder. Tu dois acheter 25 dollars. Je pense qu'il y a des petites choses que le gouvernement doit devoir faire pour nous rassurer que nous pouvons danser plus longuement qu'à l'aéroport en une seule journée.
Alors, professeur, il y a aussi toute cette question de développement. J'ai posé la question au gouverneur Paluku. Il n'y a pas que le Nord Kivu, il y a le Katanga, le Sud Kivu et toutes les zones où sévissaient ou encore sévissent quelques poches résiduelles des groupes armés. Comment doit-on saisir cette question de développement?
Oui, j'ai comme l'impression qu'il y a des conflits qui sont négligés. Il y en a, les rats d'Aluzouélé, les Bakata Katanga et autres petites milices à gauche à droite dont on ne s'occupe pas assez. Et je pense que ça c'est de nature à ne plus jamais permettre au Congo de se développer, parce que tant que l'activité principale dans plusieurs milliers sera l'instabilité, nous ne pourrons jamais nous développer. Les gens ont besoin de la paix pour se développer, pour travailler pour eux-mêmes. On ne va pas distribuer des richesses aux Congolais. Ils ont envie d'aller au champ. Malheureusement, les mauvais garçons, les mauvaises filles sont au champ. Ils ont envie d'aller pêcher. Ils ont envie d'aller chasser. Ainsi de suite. Et donc, c'est malheureusement des lieux de travail qui sont insécurisés. Des plantations de cacao, de café qui sont insécurisés. Et donc, on a réellement besoin de sécuriser notre pays à plusieurs endroits. Et à commencer par Kinshasa, puisque à certaines heures, dans des quartiers de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, eh bien, on ne sait plus sur qui il est.
Conclusion, professeur.
Ma conclusion, c'est de dire qu'on doit quitter cette manie d'approcher la paix comme une question morale. Et là, je m'adresse principalement aux dirigeants congolais. La paix doit être une construction. Elle doit découler d'une politique publique cohérente, publiée, discutée avec toutes les couches congolaises. Et on doit éviter de créer des situations que nous connaissons, merci, des situations qui ne donnent pas la paix, qui déstabilisent le pays.
Merci. Général Wafi, on ne saurait terminer cette émission sans parler de la province orientale, où il y a aussi des groupes armés qui sévissent avec des violations des droits humains. Un mot sur ces cas-là aussi. Quels sont les efforts qui sont faits pour mettre fin à ça?
Vous avez raison, la province orientale, que ce soit du côté de l'Ituri, notamment avec la présence du FRPI de Cobra Matata, mais aussi le groupe de Morgan, les Mai Mai Simba et d'autres groupuscules qui s'attaquent aux populations, commettent des exactions, des pillages. Là aussi, nous sommes dans des planifications assez avancées avec les FARDC pour commencer des opérations, y compris par le déploiement de forces spéciales pour pouvoir, du côté du sud Ivoumou, du côté du territoire de Mombasa, jusqu'à Nyanya, pouvoir vraiment sécuriser cette zone et puis en finir avec ces troubles faits qui, comme vous le savez, constituent vraiment une source de préoccupation pour les populations locales. Et comme l'a dit le député Mwaka, vraiment, de faire en sorte que les populations puissent vaquer à leurs occupations, aller au champ, pouvoir circuler librement sur des axes sans tomber sur des barrages, des coupeurs de route qui violent les femmes, qui les dépouillent à tous les niveaux. Je pense que, plaise à Dieu, en tout cas dans les semaines à venir, dans les mois à venir, nous allons continuer à mettre la pression militaire sur ces groupes.
Merci. Je considère cela comme votre conclusion aussi. Monsieur le gouverneur Julien Paluku, en guise de conclusion, un message peut-être en Swahili pour les populations qui vous suivent en ce moment, en ce qui concerne la paix.
Oui, la paix est une construction d'un rêve. La journée à Goma est une grande journée, faite comme un con, si vous aimez la musique. Faites comme Drogba, faites comme Yaya Touré, faites comme Messi, comme Ronaldo si vous aimez le football. Faites comme Mike Tyson, comme Mohamed Ali si vous aimez la boxe. Faites comme John Cena si vous aimez le catch. Kwa ndugu wote wa Kivu na wa Kongomani wote, tujue ya kwamba silaha haiwezi katuletea amani. Tufanye kama wengine, kama vile Akon, ambaye kupitia muziki amepata maisha yake. Lakini hawezi kupata maisha kupitia silaha. Hiyo ndiyo message kubwa ambayo natoa kwa wakaji wote wa Kivu ya Kaskazini.
General Wafi, un mot également.
Ma conclusion, c'est de dire que simplement, vraiment, l'espoir est permis à RDC. Je crois que il faut lutter contre... Je connaissais l'afro-pessimisme. Je découvre que certains Congolais sont très pessimistes, alors qu'il y a toutes les raisons d'espérer, il y a toutes les raisons de pouvoir avancer dans ce pays.
Merci, messieurs, d'avoir participé.
participé à cette émission Dialogue entre Congolais. C'est terminé pour ce soir. Merci à vous, chers auditeurs et internautes, d'avoir été des millions à nous suivre à travers le monde. Merci à Sylvain Baoguere, Jean-Claude Nsiala, Guy Maté, Berry Francin Luchaka et Martin Sebujangwe. Présentation et coordination, Alain Roumouchige. Bon, c'était programme sur la radio de la paix. Au revoir.